Trois hommes dans un bateau, de Jérôme K. Jérôme. Chapitre 4. Nous agitâmes ensuite la question de nourriture. Georges dit « Commençons par le petit déjeuner. » Georges est très pratique. « Pour le petit déjeuner, il nous faudra une poêle à frire. » Harris se récria que c'était indigeste, mais on le pria simplement de ne pas faire l'imbécile, et Georges continua. « Une théière et une bouilloire et un réchaud à alcool. » « Pas au pétrole !» prononça Georges avec un regard significatif. Harris et moi l'approuvâmes. Nous avions une fois emporté un réchaud à pétrole, mais cela ne nous arriverait jamais plus. Nous avions eu l'impression cette semaine-là de vivre dans un entrepôt de pétrole. Il suintait ce pétrole. Je ne connais rien de tel que le pétrole pour suinter. Nous l'avions mis tout à l'avant du canot, et de là, il suintait jusqu'au gouvernail, imprégnant le bateau entier et tout ce qui se trouvait sur son chemin. Il suintait sur le fleuve, saturait le paysage et polluait l'atmosphère. Une brise au pétrole soufflait tantôt de l'ouest, tantôt de l'est, d'autres fois du nord ou bien encore du sud, mais que la brise vint des neiges arctiques ou qu'elle se fût levée sur les sables du désert, elle nous arrivait pareillement chargée du même parfum de pétrole. Ce pétrole suintait jusqu'au ciel et gâchait même les couchers de soleil. Quant au clair de lune, il puait positivement le pétrole. À Marlow, nous tentâmes de le fuir. Laissant le bateau près du pont, nous allâmes nous promener dans la ville pour lui échapper. Mais il nous poursuivait! La ville entière était empétrolée. Nous traversâmes le cimetière et on eût dit que les morts avaient été enterrés dans du pétrole. La grand-rue empestait le pétrole, à se demander comment des gens pouvaient bien y habiter. Et nous fîmes plusieurs kilomètres au-delà des faubourgs sur la route de Birmingham, mais cela ne servit à rien. Tout le pays était saturé de pétrole. À la fin de cette croisière, nous nous réunîmes à minuit dans un champ solitaire sous un chêne maudit et nous jurâmes solennellement, nous avions déjà toute la semaine juré contre l'ignoble liquide d'une façon ordinaire et moyenne, mais cette fois c'était plus sérieux. Nous jurâmes, dis-je, de ne jamais plus prendre avec nous de pétrole dans un bateau, sauf bien entendu en cas de maladie. Dans le cas présent donc, nous nous bornâmes à l'alcool dénaturé. Ce n'est déjà pas très fameux. Il en résulte du pâté dénaturé, du gâteau dénaturé. Mais l'alcool dénaturé est tout de même plus sain pour l'organisme à haute dose que le pétrole. Comme autre ingrédient pour le petit déjeuner, Georges proposa des œufs et du lard qui sont faciles à cuisiner, de la viande froide, du thé, du pain, du beurre et de la confiture. Pour le lunch, dit-il, nous pourrions prendre du biscuit de mer, de la viande froide, du pain, du beurre, de la confiture, mais surtout pas de fromage. Le fromage, comme le pétrole, est trop envahissant. Il lui faut tout, le bateau, à lui tout seul. Il se répand dans le garde-manger et donne un goût de fromage à tout ce qui s'y trouve. On ne sait plus si l'on mange de la tarte aux pommes, de la saucisse de Francfort ou des fraises à la crème. Tout vous semble fromage. Le fromage contient trop d'odeur. Tout friand que je sois de fromage, j'estimais en conséquence que Georges avait raison de refuser d'en emporter à bord. « Nous n'avons pas besoin de prendre le thé de 5 heures, » continua Georges. La figure de Harris s'allongea en entendant cela. « Mais nous aurons à 7 heures un bon petit repas solide qui sera tout à la fois dîner, thé et souper. » Harris sera serena. Georges proposa des conserves de viande et de fruits, charcuterie, tomates, fruits frais, légumes verts. Comme boisson, nous prîmes une certaine merveilleuse mixture concentrée, une découverte de Harris, qu'on mélangeait avec de l'eau et qui s'appelait alors limonade. Du thé en abondance et une bouteille de whisky pour le cas, dit Georges, où nous ferions naufrage. Il me semblait que Georges insistait trop sur l'idée de naufrage. Cette disposition d'esprit me paraissait fâcheuse au début d'une croisière. Mais je suis bien aise tout de même que nous ayons emporté le whisky. Nous ne prîmes ni bière ni vin. Ces deux boissons-là sont une erreur en rivière. Elles vous rendent lourd et somnolent. Un verre dans la soirée, lorsqu'on fait une tournée en ville et qu'on lorgne les filles, cela va bien. Mais gardez-vous d'en boire quand le soleil vous tape sur le crâne et que vous devez vous livrer à un exercice violent. Nous fîmes une liste des objets à emporter et elle avait atteint une jolie longueur lorsque nous nous séparâmes ce soir-là. Le lendemain, vendredi, tout le matériel fut rassemblé et nous nous retrouvâmes dans la soirée pour l'emballage. Nous prîmes une grande valise pour les vêtements et une paire de paniers pour les victuailles et les ustensiles de cuisine. On repoussa la table contre la fenêtre, on empila tout un tas au milieu de la chambre et on s'assit alentour pour le considérer. J'annonçai que je me chargeais d'emballer. Je me flatte d'être un emballeur passable. Emballer est une de ces mille choses où je sens que je m'y connais mieux que personne au monde. Je m'étonne moi-même quelquefois du nombre de ces choses. Je persuadai à Georges et à Harris qu'ils feraient mieux de me laisser m'en occuper moi seule. Ils acceptèrent la proposition avec un empressement qui offrait quelque chose de suspect. Georges alluma une pipe et se vautra sur la bergère. Harris croisa les jambes sur la table et alluma un cigare. ce n'est pas tout à fait ainsi que je l'entendais. Ce que j'avais voulu dire, naturellement, c'est que je dirigerais les opérations et que Harris et George manœuvreraient sous mes ordres, tandis que je les stimulerais de temps à autre d'un « Oh, dis donc, espèce de... Oh, et oh, laissez-moi faire ça. Dieu, que vous êtes bête !» Pour les dresser, quasiment. Leur façon de le prendre de la sorte m'agaça. Il n'y a rien qui m'agace plus que de voir les autres assis à ne rien faire pendant que je travaille. J'ai habité une fois avec un type qui avait le don de me taper sur les nerfs par ce moyen. Il fainéantait sur le canapé et me regardait faire des choses des heures d'affilée, me suivant des yeux dans la chambre partout où j'allais. À son dire, cela lui faisait du bien de me regarder ainsi me donner du mouvement. Cela lui faisait sentir que la vie n'est pas un vain songe où l'on doit bâiller aux corneilles, mais une noble tâche pleine de devoirs et de labeurs sévères. Il ajoutait que depuis, il se demandait souvent comment il avait pu se passer de moi si longtemps sans avoir personne à regarder travailler. Moi, je ne suis pas comme cela. Il m'est impossible de rester tranquille et de voir mes copains turbiner comme des nègres. Je me sens le besoin de me lever et de prendre la direction de leur ouvrage, en les suivant, les mains dans les poches, en leur expliquant ce qu'ils doivent faire. Cette énergie est dans mon caractère. Je n'y peux rien. Cependant, je m'abstins de toute réflexion et commençai l'emballage. Ce fut plus long que je l'avais prévu. Mais finalement, je vins à bout de la valise et je m'assis dessus pour boucler les courroies. « Tu ne vas pas mettre les souliers dedans ?» interrogea Harris. Je regardai autour de moi et je vis que je les avais oubliés. Ça, c'est du vrai Harris. Naturellement, il se serait bien gardé de dire un mot avant de m'avoir vu fermer et boucler la valise. Et George se mit à rire, d'un de ces rires exaspérants d'imbécile, bruyant et à pleine mâchoire dont il a le monopole. Je rouvris la valise et y logeai les souliers. Mais alors, juste au moment où j'allais la refermer, un doute affreux m'envahit. Avais-je emballé ma brosse à dents ? Je ne sais pas comment cela se fait, mais je ne sais jamais si oui ou non j'ai emballé ma brosse à dents. Quand je voyage, ma brosse à dents est un ustensile qui m'obsède et empoisonne mon existence. Je rêve que je ne l'ai pas emballée. Je me réveille avec une sueur froide et saute à bas du lit pour la chercher. Le matin, je l'emballe avant de m'en être servi, il me faut redéballer pour l'avoir et c'est toujours le dernier objet que je tire de la valise. Après quoi, je remballe en l'oubliant. Au dernier moment, il me faut grimper 4 à 4 la chercher et je l'emporte à la gare enveloppée dans mon mouchoir de poche. Cette fois-ci, bien entendu, je fus obligée de tout retourner sans parvenir naturellement à la retrouver. Je farfouillais si bien dans les objets que je les mis dans un état analogue à celui où devait être le monde avant sa création durant le règne du chaos. Ainsi qu'il sied, ma main rencontra 18 fois les brosses à dents de George et de Harris, mais impossible de découvrir la mienne. Je replaçai les objets un par un en les soulevant et les secouant. Alors je la retrouvai à l'intérieur d'un soulier. Une fois de plus, je remballai. Quand j'eus fini, George me demanda si le savon était dedans. Je lui répondis que je me fichais pas mal si le savon était dedans ou non. Puis je claquai la valise et la bouclai. Mais je m'aperçus que j'y avais enfermé ma blague à tabac. Et je dus rouvrir cette maudite valise. Elle fut close finalement à 10h05 du soir. Et il restait les paniers à faire. Harris déclara que, comme notre départ devait avoir lieu dans moins de 12 heures, il croyait prudent de faire le reste lui-même avec George. J'acceptai et m'assis, et la représentation commença. Ils s'y mirent d'un cœur léger, évidemment persuadés qu'ils allaient m'en remontrer. Je m'abstins de commentaires, mais j'attendais la suite. « Quand George sera monté à l'échafaud, Harris restera le pire emballeur de ce monde. » Je considérais les piles d'assiettes et de tasses et les bouilloires et les bouteilles et les pots et les conserves et les réchauds et les cakes et les tomates, etc. et pressentis que cela ne tarderait pas à devenir joyeux. Et en effet, ils commencèrent par casser une tasse. Ce fut leur premier ouvrage. Ils le firent simplement pour montrer ce dont ils étaient capables et pour éveiller l'intérêt du spectateur. Puis Harris emballa la confiture de fraises au-dessus d'une tomate qui s'écrabouilla et ils durent enlever la tomate à la petite cuillère. Ce fut ensuite le tour de George qui marcha sur le beurre. Je m'abstins de rien dire, mais je me rapprochai d'eux et m'assis sur le bord de la table pour les regarder faire. Cela les agaça plus que tout ce que j'aurais pu dire. Je le sentais. Ils en devenaient nerveux et inquiets, et ils marchaient sur les choses ou les posaient derrière eux et puis ne les retrouvaient plus lorsqu'ils en avaient besoin. Ils emballèrent les pâtés au fond et mirent par-dessus des objets lourds, ce qui réduisit les pâtés en marmelade. Ils répandirent du sel sur tout et pour ce qui est du beurre... Je n'ai jamais vu personne en faire autant avec 26 sous de beurre que ces deux types-là. Lorsque George l'eut décollé de sa pantoufle, ils s'avisèrent de l'introduire dans la bouilloire. Il refusa d'y entrer, et ceux qui avaient réussi à s'insinuer dedans refusaient d'en sortir. Ils finirent par l'extraire en le raclant et le déposèrent sur une chaise. Harris s'assit dessus, le beurre se colla à lui et ils le cherchèrent dans toute la pièce. « Je jurerais l'avoir déposé sur cette chaise !» dit George en contemplant avec stupeur le siège vide. « Je te l'ai vu faire moi-même, il n'y a pas une minute !» repartit Harris. Alors ils se remirent à le chercher dans toute la pièce. Et puis ils se retrouvèrent nez à nez au milieu et se regardèrent abasourdis. « C'est le plus singulier phénomène dont j'ai jamais entendu parler !» prononça George. « Tout à fait mystérieux !» affirma Harris. Alors George fit le tour de Harris et découvrit le beurre. « Zut alors, il était là tout le temps !» s'exclama-t-il avec indignation. « Où ça ?» s'écria Harris en faisant volte-face. « Mais tiens-toi tranquille, nom d'un chien !» rugit George, s'élançant sur lui. Ils détachèrent le beurre et l'emballèrent dans la théière. Montmorency s'était mis de la partie, bien entendu. L'ambition de Montmorency dans l'existence, c'est de se placer dans le chemin des gens et de se faire injurier. S'il parvient à se faufiler quelque part où l'on n'a pas particulièrement besoin de lui, à devenir une vraie calamité, à mettre les gens hors d'eux-mêmes et à se faire lancer des choses à la tête, il estime que sa journée n'a pas été perdue. Arriver à obtenir que quelqu'un trébuche sur lui et le maudisse pendant une heure sans désemparer, voilà son but et sa fin la plus haute. Et quand il a réussi à l'atteindre, sa fatuité devient tout à fait intolérable. Il allait s'asseoir sur les objets au moment précis où on en avait besoin pour les emballer. Il semblait travailler par l'idée fixe que chaque fois que Harris ou George allongeait la main vers quelque chose, c'était pour caresser son effroi et humide. Il posa sa patte dans la confiture, dispersa les petites cuillères, voulut jouer à la souris avec les citrons, sauta dans le panier et en tua trois avant que Harris pût l'interrompre d'un coup de poil à frire. Harris prétendit que je l'encourageais. Je ne l'encouragerai certes pas. Un chien comme celui-là n'a pas besoin d'encouragement. C'est son péché originel qui le fait par nature se conduire de la sorte. L'emballage fut terminé à 00:50. Harris s'assit sur le grand panier et dit qu'il espérait qu'on ne retrouverait rien de cassé. George répliqua que s'il devait y avoir de la casse, c'était déjà fait, et cette réflexion parut le réconforter. Il ajouta qu'il avait envie d'aller se coucher. Nous avions tous envie d'aller nous coucher. Harris, devant passer la nuit chez nous, nous montâmes donc à l'étage. On tira au sort pour les lits, et Harris dut coucher dans le mien. Il me dit « Préfères-tu être en dedans ou en dehors, Jérôme ?» Je lui répondis qu'en général, je préférais coucher dans un lit plutôt que dehors. Harris déclara que ma facétie n'était pas neuve. George nous demanda « À quelle heure faut-il que je vous réveille, les amis ?» Harris répondit « 7 heures ». Je rectifiais « Non, 6 !» car j'avais des lettres à écrire. Nous nous chamaillâmes un peu là-dessus, mais on finit par couper la poire en deux et par dire « 6h30 ». « Tu nous réveilleras à 6h30, George !» George ne répondit pas et nous constatâmes en passant près de lui qu'il dormait déjà depuis un moment. Nous disposâmes donc le tub de façon à ce qu'il ne manquât pas de trébucher dedans lorsqu'il se lèverait le matin et allâmes nous aussi nous coucher.